reconnaissant envers Dieu que je sers avec une conscience pure à l'exemple de mes ancêtres, lorsque continuellement, nuit et jour, je fais mention de toi dans mes prières. Je me rappelle tes larmes et j'éprouve un vif désir de te revoir afin d'être rempli de joie. Je garde le souvenir de ta foi sincère, cette foi qui se trouvait déjà chez ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. À présent, elle habite aussi en toi, j'en suis pleinement convaincu. C'est pourquoi je te le rappelle. Ravive le don que Dieu t'a fait, par grâce, lorsque je t'ai imposé les mains. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. N'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. N'aie pas non plus honte de moi qui suis ici en prison pour sa cause. Au contraire, souffre avec moi pour l'Évangile selon la force que Dieu donne. C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. Et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il en avait librement décidé ainsi, à cause de sa grâce. Cette grâce, il nous l'a donnée de toute éternité en Jésus-Christ. Et maintenant, elle a été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Il a brisé la puissance de la mort, et par l'Évangile, a fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. C'est pour annoncer cette bonne nouvelle que j'ai été établi prédicateur, apôtre et enseignant. C'est aussi la raison de mes souffrances présentes, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance, et j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. Jusque-là, notre lecture de ce matin. Lors de notre culte de rentrée, il y a 3 semaines, nous avions introduit la première prédication sur le thème de l'année, avec l'idée du testament. Peut-être vous vous en souvenez, ce qui était là. Cette deuxième lettre de Paul à Timothée, la dernière que Paul ait écrite, et qui figure dans nos Bibles, ressemble à un testament dans lequel Paul transmet à son jeune collaborateur des choses essentielles concernant la vie et le service chrétien. Paul est alors emprisonné à Rome, il sait que sa mort approche, il lègue en quelque sorte ses dernières volontés, ses derniers conseils, afin d'encourager Timothée dans son ministère, dans son service pour Dieu. Et ce qui m'a interpellé dans ce texte, c'est la place accordée au souvenir et au verbe « rappeler » qui articule les deux grandes parties de ce texte, dans un mouvement qui va du passé vers le présent. Je vous invite donc à regarder de plus près ce texte en 2 temps ce matin. Premier temps, que j'ai appelé « du feu de la foi ». Deuxième temps, « au feu du service ». Du feu de la foi au feu du service. Le feu de la foi, quand Paul dit « je me rappelle », les versets 3 à 5, qui parlent du passé. Le feu du service, quand Paul dit à Timothée « je te rappelle », versets 6 à 12, et encourage Timothée dans son service présent. Premier temps donc, du feu de la foi. Paul qui dit « je me rappelle ». Quand certaines personnes évoquent des souvenirs, on a parfois l'impression qu'elles radotent, n'est-ce pas ? « Je me rappelle !» Et elle raconte souvent la même chose. Est-ce que Paul radote ici ? Est-ce que Timothée se dirait « C'est bon Paul, tu me l'as déjà raconté 100 fois. » Vous avez peut-être dans vos relations, vous avez peut-être eu dans vos relations des gens qui vous ont connu enfant et qui, vous revoyant des années après, vous rappellent des souvenirs de votre enfance ou de votre histoire que vous aviez vous-même conservé en mémoire ou bien complètement oublié. Je suis né à Nice, où j'ai vécu les 11 premières années de ma vie. Et puis je suis venu avec mes parents en région parisienne, où j'habite depuis maintenant plus de 30 ans. Et pendant des années, lorsque je retrouvais ces amis que nous avions connus à Nice, on me disait « Ah, le petit Sylvain, je me souviens !» Les gens évoquaient des souvenirs de ce que nous avions vécu ensemble il y a 10 ou 20 ans. Sauf que, au moment où je le retrouvais, j'avais 30 ans. Le petit Sylvain, il avait grandi. Les gens se rappellent de nous à un certain moment et dans certaines circonstances qui les ont marqués. Qu'est-ce qui a marqué Paul dans le parcours de Timothée? Quels sont les souvenirs qu'il évoque ici? J'en vois trois. Paul dit d'abord qu'il se souvient de Timothée lui-même. Ça peut paraître banal ou évident, mais c'est pourtant bien la première chose que Paul mentionne au verset 3. Je suis reconnaissant envers Dieu que je sers avec une conscience pure à l'exemple de mes ancêtres, lorsque continuellement, nuit et jour, je fais mention de toi, ou je me souviens de toi dans mes prières. Paul a déjà un certain âge, mais il n'a pas perdu la mémoire. Il se souvient de Timothée et il prie pour lui. Deuxième chose dont Paul se souvient, il se souvient des larmes de Timothée, verset 4. Paul fait peut-être référence ici au moment où il a dit adieu au responsable de l'église d'Éphèse, et peut-être Timothée était là à ce moment-là et a pleuré. Et on trouve ce récit à la fin de Actes, chapitre 20, vous pourrez relire à la maison, livre des Actes, chapitre 20. Et les larmes de Timothée manifestaient sans doute son attachement à l'apôtre Paul. Troisième souvenir que Paul évoque, au verset 5, la foi de Timothée. Paul se souvient de la foi de son jeune collaborateur, dont il est convaincu, nous dit-il à la fin du verset 5. Et c'est le souvenir qui est le plus développé dans cette première partie du texte. Paul fait un lien entre la foi individuelle, personnelle de Timothée et la foi du peuple de Dieu. Déjà au verset 3, Paul faisait allusion à ses ancêtres, vous l'avez lu, disant que sa foi à lui, Paul, est dans la même lignée que celle de ses ancêtres. Il parle aussi de la foi de Timothée en relation avec celle de sa mère et de sa grand-mère. Verset 5, « Je garde le souvenir de ta foi sincère, cette foi qui se trouvait déjà chez ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. À présent, elle habite aussi en toi, j'en suis pleinement convaincu. » En lisant ces quelques mots, on pourrait penser que la foi se transmet comme ça de génération en génération. Mais ni le texte, ni même nos expériences familiales ne confirment cette idée. La foi n'est pas héréditaire. Chacun est appelé, dans sa génération, à servir Dieu avec une conscience pure, comme le dit Paul au verset 3. L'expérience nous montre que certains enfants nés dans une famille chrétienne ne confient pas leur vie à Dieu. Et inversement, des gens se convertissent, se tournent vers Jésus-Christ sans avoir eu des parents chrétiens. Et notre texte lui-même nous dit que la foi se transmet plus ou moins bien d'une génération à une autre. Regardez comment ça s'est passé pour Timothée. C'est le témoignage de sa mère et de sa grand-mère qui ont joué un rôle dans sa foi à lui. Élevé dans la foi juive du côté maternel, et puis voyant sa mère et sa grand-mère devenir chrétiennes, tout cela a eu un impact sur le jeune Timothée. Mais il y a un autre élément essentiel dans le texte. Où est le père de Timothée ? D'après Actes, chapitre 16, verset 1, le père de Timothée était d'origine grecque, contrairement à sa mère qui était d'origine juive et qui est devenue chrétienne. Et aucun texte dans la Bible, dans le Nouveau Testament, ne nous dit que le père de Timothée soit devenu chrétien. On peut donc supposer que ce père n'a pas transmis à son fils la vraie foi, mais une manière païenne, non chrétienne, de voir la vie. On sait aussi par ailleurs que Timothée n'avait pas une excellente santé. On le lira dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 23. Un verset où Paul recommande à Timothée de boire un peu de vin pour ses maux d'estomac. Alors, ce n'est pas un encouragement pour boire, hein. Ça faisait partie des remèdes médicaux qu'on avait à l'époque, il y en a d'autres aujourd'hui, hein. Mais bon, voilà, Paul préconise à Timothée de boire un petit peu d'alcool, peut-être d'ailleurs c'est quelque chose de polémique par rapport à certains chrétiens dans l'église d'Éphèse qui disaient non, il faut surtout se méfier de tout ce qui vient du monde, y compris l'alcool, etc. Voilà. Tout est une question de sobriété, de proportion, hein. Jésus lui-même dit qu'il boira avec nous le vin nouveau. Voilà. Donc, c'est pas un verset à sortir du contexte, ni pour encourager les chrétiens à boire, ni pour leur interdire la boisson. Voilà. Donc, Paul recommande à Timothée de boire un peu de vin pour ses maux d'estomac, et ses fréquents malaises, dit-il. Peut-être Timothée était-il un homme anxieux. Peut-être manquait-il d'assurance. Peut-être que son père ne l'a pas aidé à développer une saine assurance masculine, n'étant pas lui-même un homme de foi stable et assuré. Et pour nous, qu'en est-il ? Peut-être notre père et notre mère ont-ils été pour nous des modèles de foi authentiques ? Ou peut-être est-ce le cas d'un de nos deux parents ? Ou peut-être encore qu'aucun des deux, ni notre père ni notre mère, n'a manifesté une foi sincère, authentique, la foi en Jésus-Christ ? Soit parce qu'ils ne sont pas chrétiens, soit parce qu'ils se disent chrétiens, mais ne vivent pas comme chrétiens dans le quotidien de la vie. Pour ceux qui sont parmi nous parents, on pourrait aussi se demander, en écoutant ces paroles, quelle foi transmettons-nous à nos enfants ? Une foi personnelle authentiquement vécue ? Une foi qui se voit dans le couple, dans l'éducation que nous donnons à nos enfants ? Ou bien est-ce que notre conjoint ou nos enfants nous voient-ils chanter de beaux chants le dimanche sur l'amour de Dieu et l'importance d'obéir à sa parole, et puis le reste de la semaine, nous ne manifestons guère cet amour que nous avons chanté et nous n'écoutons pas la parole de Dieu ? Ce dont nous témoignons alors et que nous transmettons, c'est l'idée fausse qu'on serait chrétien parce qu'on va prier à l'église et chanter des cantiques sans que cela ait un impact sur notre vie de tous les jours. On transmet l'idée qu'on pratique une religion qui nous donne une image chrétienne, mais qui finalement ne change rien dans nos relations familiales ou professionnelles. Paul se souvient de Timothée, de son attachement à lui en tant que modèle, ses larmes, et de sa foi. De quoi Paul se souviendrait-il s'il nous écrivait une lettre personnelle aujourd'hui ? Pourrait-il en dire autant de nous et de notre foi ? De notre attachement à l'exemple de foi des apôtres de Jésus-Christ ? Peut-être ce début de lettre à Timothée est-il pour chacun de nous l'occasion de faire aujourd'hui, cette semaine, un point avec Dieu sur notre vie de foi. Je vous invite à prendre quelques instants de prière silencieuse, si vous le souhaitez, pour demander à Dieu, dans votre cœur, d'éclairer votre foi, afin qu'elle devienne ou qu'elle redevienne authentique. Prenons quelques instants de silence pour nous adresser à Dieu. Amen. Du feu de la foi, c'était le premier point, je me rappelle, dit Paul, au feu du service, c'est le deuxième point. Paul dit à Timothée, je te rappelle. Après avoir demandé à Dieu d'éclairer notre foi, voyons maintenant par quels moyens nous pouvons progresser vers une foi plus authentique, plus juste. Le verset 6, c'est le verset clé de ce texte, et c'est le titre de cette prédication. Ravive le don de Dieu qui est en toi. Ravive le don de Dieu qui est en toi. De nouveau, dans ce verset, on trouve le verbe rappeler. C'est pourquoi je te le rappelle. Ravive le don de Dieu qui est en toi lorsque je t'ai imposé les mains. Dans la première partie, versets 3 à 5, Paul s'est rappelé du parcours de Timothée. Dans cette deuxième partie, Paul dit à Timothée pourquoi il a évoqué ses souvenirs. C'est pour que Timothée se rappelle, justement, et s'appuie sur ses rappels, sur ses souvenirs, pour aller de l'avant. C'est pourquoi je te le rappelle. Vous voyez, Paul n'évoque pas ses souvenirs simplement par nostalgie du bon temps passé, ou pour penser à des choses heureuses alors que sa propre mort approche, encore moins parce qu'il radote en ressassant le passé. Paul évoque ses souvenirs dans un but, que Paul se rappelle. Se rappelle quoi ? De raviver le don que Dieu lui a fait. C'est la phrase principale de notre texte, c'est le verset clé. C'est la chose la plus importante à retenir ce matin. Alors il y a plusieurs choses à dire pour bien comprendre cette phrase clé et en tirer les conséquences pour nous aujourd'hui. D'abord, de quel don Paul parle-t-il ? De quoi s'agit-il ? Paul emploie le mot « charisma » qui est très proche du mot « grâce »,« charis » en grec. Paul ne parle pas ici de la grâce du salut en Jésus-Christ, mais très certainement du ministère, du service particulier que Dieu, dans sa grâce, a confié à Timothée. Et c'est pour cela que Paul parle d'imposition des mains à la fin du verset 6. Qu'est-ce que cela veut dire, quand je t'ai imposé les mains ? Paul fait certainement référence ici à un moment, peut-être une sorte de cérémonie ou un moment particulier dans un culte où Timothée a été consacré pour un service particulier, celui de prédicateur et évangéliste. Il y a 2 ans, nous avons vécu un moment semblable avec la reconnaissance de mon ministère pastoral. Il y avait parmi les personnes présentes lors de ce week-end que nous avions organisé des représentants de notre union d'église, les responsables de l'église locale, et puis des personnes qui ont prié pour moi, qui ont posé les mains sur moi, qui m'ont imposé les mains en geste de solidarité, de communion, de consécration. Il n'y a rien de magique dans l'imposition des mains, pas de fluide qui passe par des personnes. L'Esprit de Dieu ne passe pas par nos mains. Attention de ne pas voir l'imposition des mains comme un rite magico-religieux ou une sorte d'incantation. Littéralement, imposer les mains, ça veut dire poser les mains sur quelqu'un, c'est tout. Alors, cela peut symboliser un moment important, personnel et communautaire. Mais ce n'est jamais un geste qui transmet quelque chose de spirituel, même quelque chose de bon. Il faut garder les yeux fixés sur la grâce de Dieu, plus que sur les capacités de tel ou tel chrétien appelé à un ministère précis. Les dons spirituels, et la Bible, en particulier le Nouveau Testament, nous parle des dons spirituels, sont toujours d'abord des grâces que Dieu accorde par son esprit à son Église, pas des capacités personnelles qui feraient de nous des gens meilleurs que les autres. Paul rappelle donc à Timothée qu'il a reçu un appel particulier, prédicateur, évangéliste, que cet appel particulier a été reconnu publiquement à un moment particulier, et que cet appel, ce ministère, ce service tout simplement, il faut le raviver. Que signifie raviver alors ? Raviver, c'est ce qui s'est passé avec mon barbecue en Normandie. Raviver, c'est souffler sur les braises pour qu'elles ne s'éteignent pas et qu'elles repartent de plus belle. Ce n'est pas allumer le feu, comme le chantait Johnny Hallyday, parce que le feu est déjà allumé. Ce n'est pas non plus rallumer le feu, parce que le feu ne s'est pas éteint. C'est raviver le feu, ranimer le feu, le faire repartir, l'entretenir en chauffant de nouveau, en chauffant à blanc, on pourrait dire, la flamme pour qu'elle soit efficace. La flamme ici, c'est une image que l'on retrouve d'ailleurs à plusieurs reprises dans la Bible pour parler de l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Et dans ce moment auquel l'apôtre Paul fait référence, peut-être ce culte de reconnaissance pour le ministère particulier de Timothée, Timothée n'a pas à ce moment-là reçu le Saint-Esprit. Timothée était déjà chrétien. Un peu comme dans un baptême où on ne reçoit pas l'Esprit de Dieu quand on est plongé dans l'eau, mais où l'on témoigne publiquement de son engagement à suivre Jésus-Christ. Eh bien, ici de même, Timothée a été publiquement nommé pour un service particulier dans l'Église de Jésus-Christ. Paul ne demande pas à Timothée de rallumer le Saint-Esprit, comme s'il fallait appuyer sur un bouton parce que le Saint-Esprit se serait éteint en nous. Paul demande à Timothée de relancer la flamme de sa vocation, de son appel, de son service chrétien particulier. Alors, question. Pourquoi Timothée, devrait-il raviver la flamme de son service pour Dieu ? Puisque Paul lui dit, attention, je te le rappelle, ravive ton service pour Dieu. Eh bien, je crois que c'est parce que certains dangers menacent d'éteindre la flamme. Quel danger ? J'en vois au moins trois dans ce texte. Le premier, c'est le sentiment de honte. Verset 8. Paul dit à Timothée, « N'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. N'aie pas non plus honte de moi qui suis ici en prison pour sa cause. » Il est possible, à un moment ou à un autre, dans notre service pour Dieu, d'avoir honte de Dieu. C'est pas toujours facile de le reconnaître et de l'avouer. Mais c'est bien de cela dont parle Paul. N'aie donc pas honte de témoigner de notre Seigneur. N'aie pas honte de notre Seigneur. Nous pouvons aussi, à un moment ou à un autre, avoir honte des autres chrétiens. En particulier ceux qui souffrent pour l'Évangile. Et donc Paul ajoute, n'aie pas non plus honte de moi qui suis ici en prison pour sa cause. On a parlé des chrétiens persécutés dans le monde tout à l'heure. Est-ce que ces chrétiens, ces chrétiennes, nous font honte? Ou est-ce qu'au contraire, ils nous encouragent à raviver le don de Dieu qui est en nous? Si nous avons, ou si nous avons eu, ce sentiment de honte, quel peut être le remède? Eh bien, je crois que la réponse, Paul nous la donne ici. Il faut assumer son service chrétien, quelles que soient les circonstances. Et Paul ajoute toujours dans le verset 8, « Au contraire, souffre avec moi pour l'Évangile, selon la force que Dieu donne. » Prends avec moi ta part de souffrance pour l'Évangile. Comment est-ce possible ? Là encore, le verset nous le dit. Par la puissance de Dieu, et non celle de Timothée. Souffre avec moi pour l'Évangile selon la force que Dieu donne. Premier danger, donc, la honte. Deuxième danger, la peur de souffrir ou de mourir. Au verset 10, Paul parle de la mort. ou de la puissance de la mort. Alors c'est pour dire que Christ a vaincu la mort. Mais il parle de cet obstacle qui peut se dresser sur le chemin de notre service pour Dieu. La mort, la nôtre ou celle des autres. La peur de la mort, la peur de souffrir. Le remède à cette peur, placer ou replacer notre confiance en celui qui est venu anéantir la mort, justement, le Christ, lui qui a mis en lumière la vie éternelle, fin du verset 10. Et donc Timothée est encouragé par Paul à dire lui aussi, comme au verset 12, « Je sais en qui j'ai mis ma confiance ». Troisième danger, après la honte et la peur de souffrir ou de mourir, les doutes quant à l'utilité ou à l'efficacité de notre service ou de la vie que Dieu nous confie tout simplement. Paul parle au verset 12 de ce que Dieu lui a confié, sa vie, son ministère, son service. Comment faire si nous avons des doutes sur nos capacités ? Sur l'utilité de notre service ou son efficacité. Le remède, demander à Dieu de renouveler en nous la conviction qu'il est capable. Capable, verset 12. Même quand nous ne nous sentons pas capables de faire ou de bien faire. Remarquez que le mot puissant ou puissance apparaît trois fois dans notre texte. D'abord au verset 7. C'est l'Esprit de Dieu ici, hein, qui est un esprit puissant. Au verset 8, c'est par la puissance de Dieu que nous pouvons faire face aux souffrances de la vie chrétienne. Et troisièmement, au verset 12, Paul dit que Dieu est puissant ou capable pour garder notre service pour lui jusqu'au bout. Je vous fais remarquer au passage que lorsque nous doutons de notre appel chrétien ou dans notre service pour Dieu, nous doutons en même temps de Dieu lui-même. Quand nous sommes à nous demander « Est-ce que je suis capable ?» nous sommes quelque part en train de nous demander « Est-ce que Dieu est vraiment capable ?» Si nous sommes chrétiens, nous avons tous reçu un appel particulier. Peut-être celui de prédicateur, pasteur ou évangéliste comme Timothée. Peut-être Dieu nous appelle-t-il à être témoin de sa grâce dans un métier particulier. Le ministère qu'il nous confie n'est pas forcément visible dans l'Église, mais il est pourtant bien réel. Notre ministère, au moins pendant un temps, peut être d'élever des enfants, par exemple. C'est un beau ministère pour Dieu, même s'il n'est pas forcément valorisé dans notre société. Le service que Dieu nous confie, c'est peut-être un engagement associatif. C'est un beau ministère aussi. Le service que Dieu nous confie, c'est peut-être de témoigner de lui au travers d'une longue maladie ou d'un handicap, qui nous empêche d'avoir une activité professionnelle normale aux yeux du monde, mais qui a une grande valeur pour Dieu, parce que c'est dans sa grâce qu'il nous confie cela. Même si nous préférerions peut-être avoir une meilleure santé, ou un meilleur travail. Mais c'est là que le Seigneur nous demande de le servir. Il nous est parfois difficile de regarder notre vie ou notre service pour Dieu comme une grâce, un cadeau. La honte, la peur de souffrir ou de mourir, ou encore des doutes sur nos capacités personnelles peuvent nous atteindre au point que la flamme de notre service pour Dieu diminue. Écoutons une nouvelle fois ce que Paul rappelle à Timothée. Je te le rappelle. Ravive le don de Dieu qui est en toi. Ravive le don de Dieu qui est en toi. Nous sommes appelés à ne pas nous endormir sur les lauriers de notre appel du départ, il nous faut entretenir la flamme du service que Dieu nous confie. Comment faire? Surtout si nous sommes dans la honte, la peur ou le doute, voire le découragement. Une fois de plus, la parole de Dieu répond à nos questions. Reprenons une dernière fois l'exemple de Timothée. Comment ce jeune homme, qui n'a peut-être pas reçu de son propre père les bases pour avancer dans la vie avec confiance et assurance, comment peut-il raviver la flamme de son engagement pour Dieu? Où peut-il trouver la force de conviction nécessaire pour persévérer dans son service pour le Seigneur? Réponse: il peut puiser cette force dans la parole inspirée de Dieu que Paul lui donne ici à deux reprises. Je suis convaincu. Verset 5. À présent, elle habitant aussi en toi, cette fois, j'en suis pleinement convaincu. Et verset 12. J'ai la ferme conviction que Dieu est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au dernier jour, jusqu'au jour du jugement. Imaginons la réaction que Timothée a pu avoir en lisant la lettre de Paul. Il s'est peut-être dit: ah bon, tu es convaincu, Paul, mais d'où te vient cette force de conviction? Moi, je doute, je ne suis pas sûr de moi, je ne sais pas si je suis capable de faire ce que le Seigneur me demande. Et dans ce dialogue imaginaire, Paul aurait répondu: mais qui te dit que je suis sûr de moi? Qui te dit que je me sens capable de faire ce que Dieu me demande? C'est Dieu qui est sûr, pas moi. C'est Dieu qui est capable d'accomplir à travers nous ce qu'il nous demande de faire. C'est Dieu qui nous donne son esprit, qui nous rend fort, aimant et sage. Parce que notre esprit à nous, avec un petit E, esprit, n'est pas naturellement fort, aimant et sage. Il a honte, il a peur, il doute. Timothée, mon fils spirituel, quand je te dis que je suis convaincu, ce n'est pas à cause de mes capacités personnelles, comme si moi, Paul, j'étais meilleur que toi. Je suis convaincu, non par mes propres forces, mais par la puissance de Dieu, la puissance de l'Esprit de Dieu qui m'a appelé à son service. Et de la même manière, dans ton propre ministère à toi, apprends à t'appuyer davantage sur lui. Quand tu as honte, quand tu as peur, quand tu doutes de toi-même, et donc de Dieu, tu ne l'honores pas encore comme tu le devrais. Persévère. Je sais, moi, Paul, en qui j'ai mis ma confiance. Toi aussi, tu sais en qui tu as mis ta confiance. Ne l'oublie pas. Ravive le don de Dieu qui est en toi. J'ai reformulé à ma manière notre texte de ce matin en essayant de le faire résonner d'une manière qui nous invite à venir à la rencontre de Dieu, à la rencontre de Jésus-Christ. Parce que c'est en lui, Jésus-Christ, que Dieu nous appelle à son service. Verset 9, c'est lui, Jésus-Christ, qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. Et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, à cause de nos propres capacités, mais bien parce qu'il en avait librement décidé ainsi, à cause de sa grâce. Et les premiers versets le confirment, versets 1 et 2. Paul, apôtre de Jésus-Christ, ça c'est le service que Dieu a confié à Paul, par la volonté de Dieu, chargé d'annoncer la vie promise par Dieu et accessible dans l'union avec Jésus-Christ. Salut Timothée, son cher enfant. Que Dieu le Père et Jésus-Christ notre Seigneur t'accordent grâce, bonté et paix. Le Christ Jésus est mentionné trois fois dans ces deux premiers versets, en introduction de la lettre. C'est lui, Jésus le Christ, qui est digne de confiance et qui donne à l'apôtre Paul cette force de conviction. Apprenons à imiter Paul en nous appuyant toujours plus sur le Christ dans notre vie cette semaine. En lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a fait une promesse, verset 2. Paul dit « J'ai été chargé d'annoncer la vie promise par Dieu ». Cette promesse, c'est celle d'une vie renouvelée et éternelle. Appuyons-nous donc sur cette promesse qui dépend de Dieu pour reprendre des forces cette semaine dans notre service pour lui. Nous allons prier. Seigneur, tu connais nos vies. Tu sais ce qui brûle en nous, soit le feu de notre égoïsme, parce que nous voulons mener notre vie à notre manière sans toi, et alors nous sommes en fait éteints, nous sommes morts spirituellement, et nous avons besoin de venir à toi pour, comme le dit Paul au verset 9, être sauvé et appelé à mener une vie sainte. Et pour celles et ceux qui sont peut-être dans cette situation-là ce matin, je te prie de leur donner un éclairage et une illumination particulière pour qu'ils entendent ta voix et qu'ils acceptent ta présence et ton salut, afin d'avoir eux aussi cette flamme qui brûle en eux pour toute la vie, pour l'éternité. Et pour nous qui avons accepté par ta grâce cet esprit, ton esprit qui vit en nous, ma prière c'est que tu nous aides cette semaine à raviver ce cadeau que tu nous as fait, à raviver la flamme du don, du service que tu nous confies. Nous sommes tous différents, tu nous confies chacun un service particulier. Ce n'est peut-être pas quelque chose de visible, ce n'est peut-être pas quelque chose d'extraordinaire, mais tu nous demandes d'être fidèles, tu nous demandes de persévérer, tu nous demandes de te faire confiance, quelles que soient les circonstances et quelle que soit l'image que nous avons de nous-mêmes et du service que tu nous confies. Seigneur, apprends-nous, réapprends-nous à te faire confiance pour être davantage dans la paix et dans la joie de te servir. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen.